Le nouveau mois de Marie. Septième jour. Présentation de Marie au temple. Vous savez, mon cher Théotime, que Marie, à peine âgée de 3 ans, renonça aux douceurs de la maison paternelle pour s'offrir au Seigneur et le servir dans son temple. Quel courage n'exigeait pas cette séparation? Et combien ce sacrifice ne dut-il pas être douloureux au cœur de Saint Joachim et de Sainte Anne? Heureux époux, parents plus heureux encore, assez longtemps vous avez possédé ce précieux trésor du ciel et de la terre. Ce n'est qu'un dépôt entre vos mains, vous devez le rendre au Seigneur, le rendre à la terre, dont elle est la plus douce espérance. Le temps est venu, Dieu a parlé, et Marie vous presse d'obéir. Ne vous semble-t-il pas, mon cher Théotime, voir cette sainte enfant conduite par la main de ses pieux parents à Jérusalem, les devancer, les traîner après elle, monter avec allégresse les degrés du temple, se prosterner aux pieds du pontife, se consacrer et se dévouer tout entière au service de son Dieu? Que vos démarches sont belles, ô Vierge, fille bien-aimée du grand roi. Cam, pushri, sunt, gressus, tui, fii, principis. Cantique, chapitre 7, verset 4. Vous ne jetez pas un seul regard en arrière sur tout ce que vous abandonnez, sur la maison paternelle et ses douceurs, sur un père et une mère si chéris, sur ces soins auxquels vous allez vous arracher. Et dans un âge si tendre, si sensible d'ordinaire à une telle privation. Autrefois, le Seigneur semblait insulter à Satan en lui montrant son serviteur Job et sa constante vertu. Avec quelle complaisance n'aurait-il pas contemplé du haut de son trône? N'aura-t-il pas montré à toute la cour céleste Marie, si jeune encore et déjà capable d'un tel héroïsme de vertu? Mon cher Théotime, le Seigneur n'exige pas de vous les mêmes sacrifices. Ce qu'il vous demande, c'est une éternelle séparation d'avec votre plus cruel ennemi, le péché. Impureté. Méditation. Mon cher Théotime, parmi tant de péchés qui font la joie du démon, il en est un qui est l'opprobre du christianisme. Le triomphe de l'enfer. Le sceau de la réprobation, c'est l'impureté. Il n'est point de vice plus injurieux aux trois personnes de l'adorable Trinité et en même temps plus funeste à l'homme. 1. Point de vice plus injurieux aux trois personnes de la Sainte Trinité. Premièrement, à la personne du Père. Dieu est saint, mon cher Théotime, ou plutôt la sainteté même. Tout péché attaque, il est vrai, la sainteté de Dieu. Mais de tous les vices, le vice impur lui est le plus directement opposé. Dieu est tout esprit, et ce vice, si je puis m'exprimer ainsi, est toute matière. Dieu a gravé son image dans l'âme de l'homme. Faisons l'homme, dit-il, à notre image et à notre ressemblance. Les autres péchés altèrent, si l'on veut, ces traits de la divinité, imprimés dans l'âme. Mais l'impureté les efface, les détruit entièrement. Briser, profaner le sceau royal, c'est un crime digne d'un supplice ignominieux. Que sera-ce de profaner le sceau divin à poser sur nos âmes? L'impureté fait d'une âme un monstre, dont la vue est à la charge au Seigneur, fatigue et trouble en quelque sorte son repos. Ce vice, mon cher Théotime, a porté pour ainsi dire le trouble dans le séjour de la félicité éternelle, contristé les anges et fait entrer le regret et la douleur jusque dans le cœur de Dieu. Tactus dolore, cordis, intrisecus. Genèse, chapitre 6, verset 6. Non, dit-il, le souffle de vie que j'ai communiqué à l'homme ne restera plus en lui. Je détruirai l'homme parce qu'il n'est plus que chair. Kia Karoès. Mon enfant, on détruit tout ce qui a touché à l'homme infecté de la peste. Dieu fait de même à l'égard de l'impudique. Tout ce qui a appartenu à l'homme, depuis l'insecte et le reptile, jusqu'aux oiseaux du ciel, disparaîtra avec lui. Ô mon Dieu, épargnez le chef-d'œuvre de vos mains, l'image de vos perfections, l'image de mes perfections. Oui, l'homme chaste, mais l'homme corrompu. Je ne vois plus en lui de trait de ressemblance avec moi. Je n'y vois plus que le caractère de la brute. Aussi, je ne puis plus le supporter et je me ressens de l'avoir tiré du néant. Ces terribles menaces ont eu leur effet. Contempler l'univers entier abîmé sous les eaux du déluge, Sodome et Gomorre réduites en cendres. Et vous comprendrez l'injure que fait le vice honteux à la sainteté de Dieu. Deuxièmement, point de vice plus injurieux à la personne du Fils. L'impudique est le sacrilège profanateur d'une chair divisée par l'incarnation de Jésus-Christ et par la réception des sacrements. Le baptême, mon cher Théotime, a fait de nous, selon l'expression de l'apôtre Saint-Pierre, un temple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, acquise par le sang de Jésus-Christ. Genus electum regale, sacerdotium, Jean Sacta, Populus Acquisitionis. Pierre, chapitre 2, verset 9. La Sainte Communion a encore perfectionné cette consécration de nos corps. Alors, nous pouvons dire avec l'apôtre, « Vivo autem, jam non ego, vivit vero in me Christus. » Galates, chapitre 2, verset 20. Alors, mes yeux sont les yeux de Jésus, mes mains, les mains de Jésus, mon cœur, le cœur de Jésus, son sang a coulé dans mes veines. Et quoi, j'irai prendre les membres de Jésus-Christ pour en faire des membres d'impureté? Je rendrai dans ma personne, Jésus-Christ, en quelque sorte le complice de mes désordres? Je montrerai aux anges consternés de Jésus-Christ en moi, un Jésus-Christ, la sainteté même, et un Jésus-Christ. Ah, je n'achève pas. Absit. Non, jamais.
Troisièmement.
Enfin, point de vice plus injurieux à l'Esprit-Saint. Vous êtes, mon enfant, le temple de l'Esprit-Saint. Membra vestra templum sunt spiritus sancti. 1 Corinthiens 6, verset 19. Or, l'impureté est le vice le plus opposé à la sainteté qu'exige la demeure de la divinité. Dépouiller nos saintes églises, c'est un crime. Les changer en des lieux profanes, c'est un sacrilège. Placer sur l'autel du Dieu vivant la déesse de l'impudicité, c'est ce que le prophète appelait l'abomination de la désolation. Pécheur, perce ce mur, regarde ton cœur. Malheureux, tu as pesé ton Dieu et une passion infâme l'a emporté. Elle a placé son trône sur les débris du trône de Dieu même. Ôtez-moi, as-tu dit dans ton délire, ôtez-moi ce Dieu si saint, d'un geste, d'une parole et capable de blesser. Tôle. Johann, chapitre 19, verset 15. Ôtez-moi ce Dieu exact et sévère, dont la loi est si opposée à tous mes désirs. Pour moi, je ne veux d'autre loi que mes cupidités, mes passions. Ce sont là mes guides, mes docteurs, mes maîtres. Non habemus regem, nisi caesarem. Johann, chapitre 19, verset 15. Vois, chrétien, vois ton cœur, temple de la divinité. dégradée par l'impudicité. Elle commande en souveraine, là où régnait le Dieu trois fois saint. Ô douleur, ô honte. Deux. Point de vice plus funeste à l'homme. L'impureté est tout à la fois le signe de sa réprobation et le principe de la réprobation. Signe de la réprobation. Que vois-je dans le séjour des réprouvés ? L'aveuglement. Mitite eum in tenebras exteriores. Matthieu, chapitre 22, verset 13. La confusion et le désordre. Ubi, nelus, ordo, sed sempiternus auror inhabitat. Job, chapitre 10, verset 22. L'esclavage et la servitude. Exeat, condemnatus, et diabolus, stet, ad extris, et jus. Psaume 108, verset 6. Enfin, le ver rongeur d'une conscience éternellement et continuellement déchirée. Vermis, eorum, non moritur. Matthieu, chapitre 9, verset 43. Voici, mon cher Théotime, l'impureté. Aveuglement. Saint Bernard l'a dit en peu de mots, quand l'homme, dit ce saint docteur, se laisse aller à l'ambition. C'est un homme qui pêche, mais qui pêche en ange. Succombe-t-il à l'avarice ? C'est un homme qui pêche, mais qui pêche en homme. S'abandonne-t-il au sale désir de la chair ? Il pêche, mais il pêche en bête. Or, s'il pêche en bête, il n'a donc plus ces lumières de l'esprit qui le distinguent de la bête. En effet, ce malheureux vice règne-t-il dans une âme ? Alors, ténèbres profondes, insensibilité effrayante, on oublie les devoirs les plus importants, on sacrifie sa famille, son honneur, sa vie, oui. La mort elle-même ne saurait alors dessiller les yeux. Mais allons plus loin, mon cher Théotime. L'impureté est le désordre de l'âme et le désordre de la société. Le vice de l'impureté, disait Tertullien, a tous les autres vices à ses gages et à sa solde. C'est pour lui que l'homicide répand le sang humain, que la perfidie prépare des poisons, que la prodigalité dissipe, que le parjure trompe, que le sacrilège attente sur ce qu'il y a de plus saint. Cette pensée de Tertullien n'est que la pensée du Fils de Dieu, lorsqu'il nous montre l'esprit impur suivi de sept autres démons, aussi méchants et souvent plus méchants que lui. Et assumi septem alios spiritus secum nequior esse. Matthieu, chapitre 12, verset 15. Ainsi, mon cher Théotime, faites sortir du tombeau et réunissez tous les incrédules, tous les suicides, tous les criminels qui ont porté leur tête sur un échafaud, tous ces jeunes gens, déjà vieux et honteusement ridés, descendant dans la tombe usée par le vice. Interrogez-les, presque tous vous répondront. Malheur à moi, funeste passion, ami perfide, puissais-je ne vous avoir jamais connu ? Ôtez, cher Théotime, la pureté de dessus la terre. Dès lors, tout est confondu. La discorde divise toutes les familles. Il n'y a plus de tranquillité ni pour l'époux ni pour l'épouse. D'infortunés parents tremblent pour l'innocence de leurs enfants. Tous les liens sont brisés. Un peuple impudique est un peuple barbare, car ce vice veut et demande du sang. Lisez l'histoire, Théotime, vous en serez convaincu. À l'aveuglement et au désordre, l'impureté ajoute l'esclavage, et l'esclavage le plus honteux. Plus d'une fois, mon cher Théotime, vous avez versé des larmes sur les malheurs du fils du meilleur des rois. Vous avez pu lire sans frémir d'indignation, et sans être profondément émues les pages de notre histoire qui montrent l'héritier de la plus noble des couronnes, le descendant de 73 rois, un fils de France, livré aux barbares caprices d'un infâme geôlier. Ah, mon fils, est-ce là l'esclavage du chrétien impudique ? Non, c'en est à peine une ombre. Soudain, tout change dans un jeune homme. Ses vives couleurs disparaissent, ses yeux sont abattus, il est pâle, languissant, il s'éteint. Ce changement étonne, c'est un mystère, mais un seul mot va vous découvrir ce mystère. Un tyran, un maître cruel, le tue lentement. Dicam tebi sacramentum bestiae. Apocalypse, chapitre 17, verset 7. Ce tyran, c'est l'impureté. Entrez, mon cher Théotime, dans le cœur de ce malheureux esclave de la plus furieuse des passions. Quelle servitude ! Le démon commande en despote. Il conduit sa victime de crime en crime. Mais je n'ai plus de quoi satisfaire tes désirs. N'importe, va, emprunte, contracte dette sur dette. Mais ma mémoire s'altère, mon intelligence s'obscurcit, toutes les facultés de mon âme s'usent. N'importe, va, obéis. Mais je languis, mes forces s'affaiblissent, je meurs tous les jours. N'importe, marche de désordre en désordre jusqu'au tombeau et vérifie l'oracle du Dieu que tu as abandonné. Eosa ejum implebuntur vitis adolescentiae suae et cumco in pulvere dormiens. Job, chapitre 4, verset 11. De là naît le ver de la conscience. Quatrième rapport de l'impudique avec le réprouvé. À peine l'infortuné a-t-il accordé à ses sens ce que la loi de Dieu lui défend, il demeure interdit, confus, livré comme Caïn à son propre péché, qui devient son supplice et son tourment. Ne voir autour de soi que crainte et que malheur, avoir derrière soi un abîme, devant soi un autre abîme, sentir des maux affreux, craindre des maux plus horribles encore. Concevez une pareille existence et vous aurez celle de l'impudique. Est-ce assez, mon cher Théotime, sur cette triste matière ? Non. Achevons. Impureté, principe de réprobation. C'est le dernier trait de ce funeste tableau. Impureté, principe de réprobation. Pourquoi ? Parce que point de péché qui rende le pécheur plus sujet à la rechute. Parce que point de péché qui l'expose plus à la tentation du désespoir. En effet, chez l'impudique, la volonté devient passion. La passion se tourne en habitude, l'habitude en nécessité. Alors, chute sur chute. Alors il est vendu à son péché. Venundatus sub peccato. Romains, chapitre 7, verset 14. Après qu'il s'est débattu quelque temps dans ses fers, où vont aboutir ses faibles efforts ? À un affreux désespoir. Desperante semetipso tradiderum impuditiae. Éphésiens, chapitre 4, verset 19. Oui, mon cher Théotime, l'impudique désespère de tout. Il désespère de sa conversion. Le péché chez moi est une seconde nature. Comment me séparer de moi-même et de ce qui est devenu en quelque sorte mon être? Si fatigué, honteux de ce dur esclavage, il se sent pressé de s'y soustraire. Il désespère de sa persévérance. Ne l'ai-je pas voulu 100 fois? Et 100 fois après les résolutions les plus fermes en apparence, n'ai-je pas fait les chutes les plus déplorables ? Enfin, il désespère tout à la fois, et de Dieu, et de lui-même. De Dieu, après tant de résistance, de promesses et de rechutes. En lui, tout est saint, en moi, tout est péché. Il ne saurait me pardonner, je l'ai trop offensé. Je suis un ingrat, un perfide, un monstre à ses yeux, indigne de bonté. Il désespère de lui-même, sa faiblesse, la force de ses passions, l'irritabilité de ses promesses. Tout en un mot, l'altère et l'effraie. Que faire, mon cher Théotime, de ce funeste état? Tout est-il donc perdu? Non, non, âme infortunée. Tout n'est pas perdu, puisqu'il vous reste dans le ciel une avocate et une mère. Marie est le refuge des pécheurs, l'espérance des désespérés. Heureux qui se jette avec une humble confiance dans son sein maternel. Qui me invenerit, inveniet vitam, et aurait salutem ad domino. Proverbe chapitre 4, verset 35. Exemple. Deux jeunes Espagnols, dont le père m'a fait, n'a pas voulu dire le véritable nom, pour ne pas compromettre leur famille, et que nous nommerons Alphonse et Ferdinand. Étaient unis entre eux par une ancienne amitié, si l'on peut décorer de ce titre une liaison formée par le vice. Ils vivaient à Madrid, plongés dans un affreux libertinage. Ferdinand, sans doute moins coupable devant Dieu, eut un songe que le ciel lui envoya pour le réveiller au fond de l'abîme. Il lui semblait voir deux géants énormes et d'un aspect effrayant qui s'élançaient dans sa chambre, se saisissaient de lui et l'emportaient sur le rivage de la mer. Une terrible tempête, déchaînée sur les flots, les soulevait jusqu'au ciel. L'épaisseur des ténèbres était sillonnée par de fréquents éclairs et le tonnerre retentissait avec un fracas épouvantable. Des spectres hideux montaient des navires qui étaient poussés rapidement sur le rivage. Ils chargeaient de chaînes tous les hommes qu'ils pouvaient saisir et les emmenaient garrottés sur leur vaisseau. Parmi ces prisonniers, Ferdinand reconnut son ami Alphonse. Lui-même se vit à son tour, environné de ces monstres qui l'entraînaient déjà avec eux. Lorsqu'il invoqua le nom de Marie, et sur le champ, ce spectacle effrayant s'évanouit, mais pour faire place à un autre plus effrayant encore. Le juste juge parut tout à coup à ses yeux, assis sur son tribunal. La Sainte Mère était à sa droite, et des milliers d'anges environnaient son trône. Après avoir envisagé Ferdinand d'un œil sévère et menaçant, il allait lancer sur lui son tonnerre, lorsque cet infortuné implora de nouveau le secours de la Sainte Vierge, faisant vœu, s'il obtenait sa grâce, de quitter le monde et d'expier ses égarements par une pénitence rigoureuse. Marie parvint à fléchir en sa faveur son fils irrité et arrêta le coup qui allait le frapper. Ferdinand, s'étant éveillé, trouva jusqu'au plancher de sa chambre mouillé des larmes qu'il avait versées durant cette nuit effroyable. Cet avertissement, qui ne pouvait venir que du ciel, lui inspira de sérieuses réflexions, et il promit devant Dieu, avec serment, d'entrer dans un ordre sévère. Sur ces entrefaits parut Alphonse, qui le voyant, contre son ordinaire, triste et profondément ému, le plaisanta sur son air chagrin, et chercha à l'égayer en lui parlant de parties de plaisir. Ferdinand lui raconte toutes les particularités du songe qu'il vient d'avoir, et lui dit sérieusement qu'il a résolu et même fait le vœu de changer de vie et d'entrer en religion. Après son récit, Alphonse, le reprenant avec un rire amer, se moqua de sa crédulité et de son projet. « Ne voudrais-tu pas, lui dit-il, m'entraîner moi-même avec toi dans ta folie ? Allons, Ferdinand, laissons les épouvantails d'enfants et reprenons courage. Et moi aussi, ajouta-t-il. Je désire et j'espère me sauver, mais pas si vite, il sera temps plus tard, il faut que jeunesse se passe. Ne sais-tu pas que la foi nous dit que, pour gagner le ciel, il suffit de bien finir ? Au milieu de cet entretien, un domestique vient tout hors d'haleine avertir Alphonse que deux jeunes gens l'attendent à la porte pour une affaire qui ne souffre point de retard. « J'y vais, dit-il, et dans un instant je suis à toi. Ferdinand, ne pense plus à tes idées. » Il se hâte de descendre et trouve dans la rue deux jeunes cavaliers avec qui il s'était fait des affaires. À peine l'ont-ils aperçu, se jette sur lui avec une espèce de rage, le perce de mille coups et s'enfuit, le laissant noyer dans son sang. Ferdinand accourut au bruit, mais il était trop tard. À la vue de ce cadavre sanglant, il est frappé comme d'un coup de foudre. Il reconnaît la vérité du songe qu'il a eu. Il court se jeter aux pieds d'un confesseur, lui fait le récit de cette tragédie lamentable, lui parle du vœu qu'il a fait, renouvelle à ses pieds et confirme ce vœu. Après une confession accompagnée d'un torrent de larmes, le nouveau pénitent reçoit l'absolution et rentre dans la grâce et l'amitié de Dieu. Déjà, il a vendu tout ce qu'il a pour le distribuer aux pauvres et pour consommer son sacrifice. Mais, ô funeste effet de l'habitude, bientôt, ses passions assoupies se réveillent. Au lieu de distribuer ses richesses aux pauvres, il les dissipe en jeu, en festin, en débauche. Il se replonge dans la fange de l'impureté. Épuisé par tant d'excès, en proie à mille maux qui en étaient les fruits amers, il reçut encore un avis du ciel. Le puits de l'abîme lui parut s'ouvrir sous ses pieds, et dans ses brasiers il vit des milliers de réprouvés sur lesquels les démons exerçaient leur rage. En face, il aperçut encore le juge redoutable, assis sur son tribunal, qui ordonnait aux esprits infernaux de se saisir de lui et de le précipiter dans ce gouffre. Tremblant de frayeur, il se recommande de nouveau à la bonté de Marie, et Marie, aussitôt, se prosterne aux pieds du trône de Dieu. « Ma mère, lui dit le juste juge, qu'avez-vous besoin d'intercéder encore pour un ingrat ?»« Pardonnez-lui encore une fois, répondait la Sainte Vierge. S'il retombe de nouveau dans ses désordres, alors j'y consens. Plus d'intercession de ma part, de la vôtre plus d'indulgence. Eh bien, qu'il soit fait, ma mère, comme vous le demandez, reprit le souverain juge. Mais vous, ô homme, ajouta-t-il, retenez bien que si vous ne profitez pas de cette dernière faveur, vous n'aurez plus rien à espérer de la médiation de ma mère. Ferdinand fut touché, il fit pénitence, et en revenant à la vertu, il retrouva la santé. Mais ô tyrannie des habitudes criminelles! À peine quelques jours s'était-il écoulé, qu'il alla au-devant des occasions du péché. Il retombe, le malheureux, et plus bas que jamais, réduit à la dernière indigence. N'ayant plus de quoi fournir ses débauches, il se jette dans un vaisseau qui partait pour l'Amérique, dans l'espérance d'y rétablir sa fortune. Il arrive à Lima, capitale du Pérou. Tout ce qu'il gagne d'argent, par bonne ou mauvaise voie, va se perdre dans le gouffre dévorant de ses passions. Victime lui-même de tant d'excès, il retombe malade et s'estime heureux de trouver un asile dans un hôpital bâti loin de la ville. Dans cette triste situation, voyant son mal empirer de jour en jour, Ferdinand commence à rentrer en lui-même. Il entend parler d'un saint missionnaire, fort connu dans la ville et dans cet hôpital. Par sa charité et son zèle, espagnol comme lui et même son concitoyen. Il l'envoie prier de venir au secours d'un malheureux qui était dans le plus grand danger de perdre corps et âme. Le père accourt aussitôt. Et Ferdinand lui fait sa confession avec une grande abondance de larmes. Le saint religieux écoute avec bonté ce long récit de chute et de rechute sans laisser échapper le plus léger signe de dégoût et d'ennui. Ferdinand lui parle de son vœu. Le père s'offre à lui pour l'aider dans le choix d'une maison religieuse et pour l'y faire admettre dès qu'il sera revenu en santé. Il le laisse dans les plus belles dispositions en lui promettant de revenir bientôt. Le soulagement de l'âme contribua au rétablissement du corps. Mais les sages réflexions se dissipèrent avec le danger, et en retrouvant la santé, il revient à ses funestes penchants. Pour ne point terminer l'affaire de son entrée en religion, il se hâta de quitter l'hôpital avant le retour du saint religieux. Il ne parut plus même dans Lima, et se mit à courir tout le pays, multipliant de nouveau ses iniquités, avec une fureur qui semblait vouloir se dédommager de quelques semaines de conversion. Plusieurs années après, le saint missionnaire, conduit par son zèle apostolique, s'enfonce dans les montagnes et les forêts les plus inaccessibles du Pérou. pour y gagner des âmes à Jésus-Christ. Il choisit, pour centre de sa mission, une petite ville bâtie sur une éminence et fréquentée par les montagnards du pays. Après les travaux du Saint-Ministère, son délassement était de consoler les malades dans un hôpital de la ville et de leur enseigner le secret de convertir leurs maux passagers en trésors éternels. Un jour, qu'il portait de lit en lit ses utiles et touchantes consolations, il entend retentir dans un coin un gémissement sourd et prolongé. Et, comme le rugissement du désespoir, il y court et ses yeux sont frappés d'un spectacle d'horreur. Il voit, étendu sur un peu de paille, à demi pourri, un homme, ou plutôt un squelette, couvert des haillons de la misère, tout décharné, les joues creuses et hâves, les yeux éteints, exhalant une odeur cadavéreuse. C'était Ferdinand. Déjà sur le seuil de l'éternité, il entr'ouvre une paupière mourante et reconnaît le Père. « Que suis-je malheureux ?» s'écrie-t-il dans un dernier effort. « Faut-il donc que partout, je rencontre ce prêtre ? Ce n'est pas assez qu'il connaisse tous les crimes de ma vie, il faut encore qu'il me voie mourir en réprouvé et commencer mon éternité malheureux ?» Après ces mots, il recommença ses rugissements effroyables, que lui arrachait sans doute le souvenir de tant d'occasions de salut perdues par sa faute. Et, au milieu de ses regrets déchirants, malgré les efforts du saint religieux, son âme, chargée d'iniquité, s'arracha de ce corps infect et alla apparaître, non plus en songe, mais d'une manière trop réelle, devant le tribunal redoutable. Vérifiant ainsi dans sa personne cet oracle de l'Esprit-Saint, les eaux de l'impudique se rempliront des vices de sa première jeunesse et l'impureté descendra avec lui dans le tombeau. Retraite du Père Maffei. Pratique. Dans les tentations, levez les yeux vers Marie. Recourez surtout à l'Immaculée Conception de cette Reine des Vierges. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous. Et à bientôt.